Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa number 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sigel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Viendra ma parole, le jour de la fête à Juneau.
Ça va, mec? Oui. Un peu monde sont là?
Ah oui, on se regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzon! Ouais.
Ils sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'écoulement. Merde, pardon. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en œuvre?
Mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition des Enfants d'Europe 1 comme chaque lundi et chaque vendredi entre 10h30 et midi. Vous êtes sans doute nombreux en cette période à profiter ou à la veille de profiter de congés bien mérités et vous êtes, paraît-il, de plus en plus nombreux à redécouvrir ou découvrir ce beau pays qui est le nôtre, tant il est vrai qu'il n'est pas forcément besoin d'aller très loin ou à l'étranger pour dénicher des trésors qui sont parfois à nos portes. C'est donc un tour de France, le nez au vent, que je vous invite aujourd'hui à une balade amoureuse au pays, à une promenade touristique au hasard d'émissions retrouvées dans les archives d'Europe 1. Avec des régionaux de l'étape, des natifs du coin, des célébrités dans leur village et plus loin encore, des gens de l'Est, du Nord, de l'Ouest ou du Sud, fiers de leurs racines, des anonymes, des originaux, des hommes et des femmes de la terre, des vedettes qui ne renient pas leurs origines et qui les ont souvent portées haut, comme des oriflammes, comme Claude Nougaro, quand il chante ou quand il dit son amour pour sa ville de Toulouse, qu'il évoque dans l'émission « Le pays d'où je viens » que présentait Alexandre Franti sur l'antenne d'Europe 1.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin, parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des Minimes, ou mon pays. J'habitais un quartier qui était assez loin de la Garonne, enfin du fleuve noble, n'est-ce pas? Et nous avions droit au canal du Midi qui enveloppait autour de mon enfance un bras un peu mort et verdâtre sur lequel glissaient des péniches un peu endormies comme ça. On passait un pont en briques rouges qui évoquait un peu l'Espagne un peu. Et puis il y avait une avenue sur laquelle circulaient les doubles voies des tramways, n'est-ce pas? Et j'habitais là donc une sorte de maison qui existe toujours. Une assez mauvaise bicoque qui tremblait, n'est-ce pas, de tous ces murs grêles de plâtre écaillé lorsque passaient en ferraillant ces lourds tramways de l'époque, n'est-ce pas, qui ont disparu. C'est une ville rose parce que, plutôt une ville rouge d'ailleurs, ces constructions pendant tout un temps ont été façonnées dans et construites dans une brique rouge. Ah, plus les tuiles, n'est-ce pas? Ça donnait à la ville cette coloration rose-vermeil qui était encore aiguisée, encore affûtée par certains soleils couchants, n'est-ce pas? Qui embrasaient toute la ville. Vraiment, ça marquait ces très belles couleurs. C'est un buisson de corail. Le centre de la ville ne change pas, à part qu'il est évidemment empuanti comme il se doit par une circulation diabolique. La ville s'agrandit par circonférences successives, murailles, etc., autour, n'est-ce pas, que la poussée est normale. Mon père, oui, était artiste lyrique et c'était un baryton Verdi, ce qu'on appelle le grand baryton d'opéra. Et vous savez que Toulouse était célèbre et glorieuse également parce que c'était en France une pépinière de belles voix et c'était un peu la patrie en France du bel canto. Et là, mon père, c'était une des vedettes, n'est-ce pas, du Capitole. Et alors j'étais introduit dans les coulisses de ce théâtre, dans un monde tout à fait fantastique. Et des fois, je voyais devant moi un énorme bossu, personnage qui sortait d'un rêve de Victor Hugo. et qui sentait une odeur fauve comme ça. Et c'était mon père qui me pressait sur sa poitrine. Alors j'avais parfois le droit d'assister à la représentation. Alors c'était la Tosca. Alors mon père était Scarpia, c'était le chef de la police nazie de l'époque, n'est-ce pas, qui au deuxième acte se faisait planter un couteau dans le ventre par la Tosca et qui s'écroulait dans une scène magnifique, en tirant une nappe chargée d'argenterie. Et alors j'étais bouleversé par ces morts somptueuses. Il existe, oui, un accent en particulier, mais je crois qu'à Toulouse, il existe plusieurs accents, selon qu'on appartienne à la ville bourgeoise ou au faubourg rocailleux, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a l'accent du peuple, et même de plusieurs peuples, même d'un quartier à un autre quartier, ça peut changer. Et puis, il y a la rocaille un peu plus enveloppée de la bourgeoisie toulousaine, n'est-ce pas? Alors, mon père, par exemple, il y a des R qui... Il y a des R qui deviennent des L. Mon père, pour dire cravate, par exemple, ou huître, dit calavate ou huître. Il met sa calavate pour aller manger une douzaine d'huîtres. Mais les Toulousains, oui, ils ont un caractère particulier, certainement. Il arrive encore que vous demandiez, dans une rue de Toulouse, une adresse que vous cherchez. Eh bien, la personne va s'arrêter et va commencer à communiquer avec vous. S'il le faut, elle vous dira que sa petite fille ou son cousin, n'est-ce pas, lui donne quelques soucis ou qu'on va marier sa fille. Et voilà une discussion qui s'engagera, n'est-ce pas, d'inconnu en inconnu. Et cette personne sera même susceptible de vous amener presque, n'est-ce pas, au seuil de la rue, en tout cas, que vous recherchez. Donc je vous dis, quelque part, il y a quand même un sens du contact humain et de l'ouverture, de la disponibilité qui est tout à fait sympathique.
Voilà, Claude Nougaro, témoignage d'une époque, d'une ville, passage rapide dans le cercle des poètes disparus. Bonjour Alexandre Fronty.
Bonjour.
Ça doit être émouvant, on devrait entendre ça.
Assez, oui, et je m'aperçois finalement que ça n'a pas trop mal vieilli, parce que c'était toi-même il y a une trentaine d'années, hein. Ça n'a pas mal vieilli parce que les personnages que je rencontrais souvent, comme Nougaro, étaient fantastiques, quoi. On l'écoute, il parlait dans la vie comme ça, c'est merveilleux de manière de chercher ses mots, en plus je suis toulousain alors, donc je vibre, hein. Même si j'ai pas vécu longtemps à Toulouse, ça me touche.
Comment elle est née cette émission?
Écoutez, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'était Bruno Dahl, à l'époque, qui était secrétaire général de la rédaction qui a eu cette idée avec un correspondant en province, si je me souviens bien. Et un beau jour, moi j'étais reporter et je présentais aussi des journaux, des flashs d'information. On m'a dit, voilà, il faut que tu présentes le pays d'où je viens. Donc c'était à prendre ou à laisser. Je l'ai fait tout en continuant de faire du reportage.
Oui, grand reportage d'ailleurs par la suite.
Absolument. Et c'est quelque chose que j'appréciais vraiment. Ça a duré pas mal d'années. C'était diffusé le samedi, je crois.
Qu'est-ce que tu appréciais particulièrement? On va se tutoyer parce que...
Oui.
Il y a quelques années tout de même.
Qu'est-ce que j'appréciais? Et qu'est-ce que j'apprécie toujours dans ce concept? D'abord, ça me permettait de rencontrer des gens, des écrivains, des hommes de théâtre, des acteurs, que je n'aurais pas pu rencontrer autrement. Je veux dire, rentrer dans l'intimité d'un Nougaro, ça valait vraiment le déplacement. Et la deuxième chose, c'est vrai que dès l'instant où l'on commence à demander à des gens de parler de leurs souvenirs d'enfance, ça permet de les découvrir d'une autre manière. Vous demandez à un homme politique, je sais pas, Jacques Chirac, Ségolène Royal, de parler de sa petite enfance, on sortira des discours convenus, quoi, et on découvrira des gens autrement.
Il va falloir qu'on y pense, d'ailleurs.
Pourquoi pas?
Le Tour de France des enfants d'Europe 1, c'est dans quelques instants.
Marc Tronchot.
Le Tour de France des enfants d'Europe 1 suite. Nous sommes trois dans le studio. Le troisième, il lui suffirait de dire un mot, magie de la radio, pour qu'on n'ait pas à le présenter.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre Bonte. Il y a des acteurs qui ont un rôle, une interprétation à poursuivre durant toute leur carrière. Toi, ton credo, ta raison d'être journaliste, ça a été, c'est toujours de faire parler les plus anonymes, les gens d'ici, l'ancien sur la place, du village, le curé de la paroisse, le maire de la commune, à qui tu disais bonjour tous les matins.
Oui.
Bonjour monsieur le maire. Idée géniale, qui a eu cette idée?
C'est pas moi, non plus. C'est Jean Gorini, qui était directeur de la rédaction à ce moment-là. Qui
grand nom d'Europe.
Se souvenait, m'a-t-on dit, d'une émission qui avait lieu sous l'occupation et que faisait Jean Noin sur une radio de l'époque et qui s'appelait Bonjour la France. Et c'était une sorte de salut quotidien à une commune, mais pas sous forme de reportage. Simplement, il paraît qu'il prenait dans l'annuaire téléphonique les gens d'un village qui avaient le téléphone, ils n'étaient pas nombreux à l'époque, il leur téléphonait, c'était l'épicier ou le cafetier, pour avoir quelques renseignements sur la commune, et il faisait un petit billet tous les matins sur la commune. Et Jean Guérini a eu cette idée fantastique de reprendre ce concept pour l'adapter à l'évolution des technologies. C'était les débuts du magnétophone portatif, ce fameux Nagra, oui, qui a permis donc à Bonjour Monsieur le Maire d'aller de village en village et tous les matins de donner la parole directement aux habitants, au maire d'abord, mais aux habitants de la commune que nous avions choisi de présenter.
On va se faire plaisir, on va écouter le générique.
Bonjour, monsieur le maire. Une émission réalisée grâce à Butagaz, Propagaz.
Butagaz, Propagaz, le confort sous chaque toit. Un, deux, trois, hop là, la flamme, la voilà. Butagaz et Propagaz.
Et pourquoi Butagaz, Propagaz, Pierre Bonte?
Eh ben, parce que c'est grâce à eux, en fait, que l'émission est née. Ils avaient le souhait, on est en 1959. Non, 56, c'est mon entrée à Europe 1. Ouais. C'est mon entrée à Europe 1, j'avais 23 ans. 59, Butagaz voulait faire une publicité sur Europe 1 à travers une émission qui toucherait le public rural, puisque le gaz butane, par définition, c'est le gaz qui se vend dans les campagnes. Donc, ils voulaient mettre en valeur le fait qu'ils avaient un distributeur de Butagaz à peu près dans chaque commune, le plus petit village de France. Et Jean Guérini, donc, a eu l'idée de créer Bonjour Monsieur le Maire, de leur proposer une émission qui s'appellerait Bonjour Monsieur le Maire, donc, et qui se terminerait chaque fois par un petit mot du distributeur qui dirait, Butagaz, on est les meilleurs, quoi, un truc de ce style-là. Et voilà, pourquoi je dois rendre hommage à Butagaz qui a été, sans lui, il n'y aurait jamais eu Bonjour Monsieur le Maire. Et ils ont sponsorisé, on ne disait pas encore ce mot-là à l'époque, l'émission pendant 10 ans.
Ouais. Alors dans cette émission, on va en apprendre tous les jours sur les problèmes de telle commune, sur des spécificités locales, sur des spécialités du cru, sur la signification de telle ou telle coutume ou sur la signification de noms parfois inattendus donnés à un lieu et par exemple à une plage de l'île de Bas, au large des côtes du Finistère Nord.
Monsieur le maire, vous avez inauguré il y a quelques jours une plaque sur une petite plage de l'île.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette plaque?
Oui, c'est une plaque en granit d'une teinte bleue sur laquelle on a écrit « Sur cette greffe, Farah Diba, future impératrice d'Iran, se baignait durant l'été 58. »
Car Farah Diba est vraiment venue se baigner ici en 1958.
Absolument.
À quelle occasion?
Eh bien voilà, elle a voulu visiter la côte sauvage du nord du Finistère. Elle a choisi l'île de Bas. Elle s'est présentée chez moi, je l'ai évidemment acceptée, ne sachant évidemment pas que c'était la future impératrice d'Iran. Alors cette brave demoiselle est restée chez nous pendant 10 jours, je crois. 10 jours, très charmante. Elle était accompagnée d'une vieille dame qui ne parlait pas français. D'une autre demoiselle qui ne parlait pas également le français. Mais mademoiselle Farah Diba parlait parfaitement bien le français.
Et que faisait-elle?
Bon, mon Dieu, ici, elle se promenait plutôt.
Oui.
Oui. Et alors, presque tous les après-midi, même le matin, elle allait à la baignade, à cette fameuse greffe Farah Diba. Elle trouvait très agréable parce que d'un côté, il y avait des gros rochers. Et alors, au milieu, il y a une plage de sable avec vraiment une eau très, très calme et très pure.
Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'elle deviendrait un jour impératrice d'Iran? Ou tout au moins un personnage important?
Ah, ça, pas du tout.
Je
ne crois pas. Personne ne s'en est douté.
Dans son comportement, elle avait vraiment l'air d'une jeune fille.
C'était une jeune fille très simple, une petite jupe assez courte, un chandail et c'est tout.
Oui.
Et quelquefois, pieds nus même.
Vous avez essayé d'entretenir des rapports avec elle par la suite?
Ben non, j'ai attendu la naissance de son petit garçon.
Du petit chat.
Du petit chat.
Et alors?
Alors je lui ai envoyé une carte, une simple carte de l'hôtel de mon hôtel, une carte postale, oui.
Et qu'est-ce que vous aviez écrit sur cette carte postale?
Félicitations, quelque chose comme ça.
Tout simplement.
Tout simplement, oui.
Et elle vous a répondu?
Et alors elle m'a répondu, je peux vous donner la copie de la lecture de la lettre. Téhéran, le 8 janvier 61, cher monsieur Morvan. Sa Majesté l'Impératrice se rappelle avec plaisir les beaux jours qu'elle a passés à l'île de Bas. Elle n'a pas non plus oublié l'hospitalité et la gaieté du milieu et de la nature de la Bretagne française. Très touché de votre aimable pensée, mon auguste souveraine daigne m'ordonner de vous en exprimer sa vive appréciation, ainsi que ses souhaits de bonnes et heureuses années pour vous personnellement et pour les gentils habitants de l'île de Bas. Veuillez agréer, cher monsieur Morvan, l'assurance de ma considération la meilleure, ainsi que l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. Alors, signé Faz Lola Nabil, maître de la cour de Sa Majesté Farah Pahlavi, l'impératrice d'Iran. Ensuite, alors, on a dit, puisque l'impératrice est aussi gentille et s'intéresse tant à l'île de Bas, on va mettre une plaque à la grève où elle avait l'habitude de se baigner. C'est ce que nous avons fait.
Est-ce que vous pensez revoir un jour Faradiba, impératrice?
Ah, je le voudrais bien, mais je crois que ses occupations actuelles, vous savez, ne lui laissent pas grande liberté.
Non.
Autrement, évidemment, toute l'île de Bas serait très, tous les gens de l'île de Bas seraient très, très heureux de la voir.
Et très honorés.
Et très honorés. Ah, ça ferait de la grosse réclame pour le pays, alors.
Pierre Bonte, la notoriété de l'émission, elle est venue rapidement.
Ah, ça a mis quelques temps. Il ne faut pas oublier que l'émission est passée relativement tôt. 7h-10
tous les matins.
Il a fallu quand même en ville, l'émission n'était pas très très écoutée, j'ai l'impression. Il a fallu quoi, 2-3 ans vraiment pour qu'on commence à parler de Bonjour Monsieur le Maire.
Mais comment on s'y prenait? Je veux dire, on cherchait un petit peu à l'aveuglette les bons reportages, les bonnes personnes à interviewer. Ou est-ce que à un moment donné, il y a eu une demande, il y a eu des gens qui se sont signalés à ton attention pour te faire venir dans le coin?
Oui. Alors, au début, c'était moi qui cherchais dans la presse locale, régionale, que je recevais, quelles étaient les communes où il se passait quelque chose d'original ou d'intéressant. Et puis, petit à petit, ce sont les communes, oui, qui aussi se sont proposées, parce que c'était une publicité, une réclame, comme disait Monsieur le Maire de l'île de Bas, une réclame formidable pour les communes. C'était les débuts du tourisme rural et les communes avaient besoin de se faire connaître. Et Europe 1 était la seule antenne à l'époque qui donnait la parole aux gens perdus au fin fond des campagnes françaises.
Plus de 36 000 communes en France, c'est, ouais, c'est le territoire idéal. Hein.
Il y en a qui sont inépuisable. Sans intérêt, moi, j'ai fait 15 ans d'émission, 4 000 communes, comme vous dites, il y en a 36 000, vous voyez, j'ai fait à peine 10% des communes françaises en 15 ans. C'est une matière inépuisable, la commune, l'esprit de clocher, c'est une source d'information. Et ça touche surtout tout le monde, comme le pays d'où je viens, je veux dire que... Ça touche l'émission des habitants de la commune, mais ça touche tous ceux qui en sont originaires, tous ceux qui sont passés par là un jour. On a tous une commune dans notre cœur.
On a tous une fierté.
Et voilà, et une fierté de nos racines, finalement. Et c'est ça qui a fait le succès de Bonjour Monsieur le Maire, dont on me parle encore. C'est incroyable. Une fois, je vais dans une commune, je rencontre un maire qui me dit « Ah, vous êtes venu chez moi en 1968, 69. » Enfin, on se souvient de la date, on me raconte. C'est fantastique.
Une plage Faradiba. Ça passait tôt le matin, mais c'est vrai qu'il y avait tout de même une sacrée notoriété. Quoi.
Oui.
Et quand on disait « Bonjour Monsieur le Maire », enfin, même en reportage, on allait parfois dans des petits bleds, et il y avait des types qui nous disait, vous venez pour Bonjour Monsieur le Maire. Non, pas pour ça.
J'aimais mieux quand c'était toi, quand sur ma bouche tu mettais tes doigts, en disant tais-toi, mets ta main là. Fais arpenter les landes à ses petites sœurs. aura Blanchard en dérive, allongé sur le dos, on écoute chanter Dido au milieu des fleurs. Pour étendre cette épidermique, je m'évertue, je m'applique et ça va. On me fait des baisers dans le cou, mais je pense à toi beaucoup. Des jolis visages et tout ce que chez toi j'aimais. L'été où j'étais l'invité de la principauté de ta beauté. Je passe des heures à la fenêtre à regarder le vent peut-être. Il y en a même qui me disent je t'aime. Moi je le dis jamais.
J'aimais mieux quand c'était toi. C'était Alain Souchon sur Europe 1 et tout de suite Marc Tronchot.
Un petit tour de France avec les enfants d'Europe 1. C'est aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Fronty et de Pierre Bonte. C'est sans doute de fréquenter autant les routes et les chemins de France qui va donner une idée quelques années plus tard, faire partager aux auditeurs quelques bonnes vieilles recettes de cuisine avec l'accent du terroir et le ou la spécialiste maison.
Le kouglof, donc, c'est un gâteau que les Alsaciens font cuire dans un moule spécial, qu'on appelle bien entendu un moule à kouglof, et un gâteau qui pourrait se classer, disons, dans le petit monde de la pâtisserie, entre le cake et la brioche. Ça tient un peu des deux. En tout cas, si vous voulez la recette du vrai kouglof, je vous conseille de suivre celle de Madame Louise Muller de Mulhouse. Car d'une part, Madame Muller a été élue meilleure gastronome d'Alsace en 1971. D'autre part, elle tient sa recette d'une grand-mère qui avait la réputation de réussir à la perfection les kouglof, ainsi qu'elle l'a expliqué à Michel Chapelier.
Ma grand-mère maternelle faisait des kouglof formidables. Elle faisait des kouglof avec des bourres. Voyez? La spécialité, quand quelqu'un sait faire les kouglof, il faut qu'il y ait des grands bourres. Et moi, déjà depuis l'âge de 14 ans, j'en faisais. Et lorsqu'au début, il ne réussissait pas bien, mon père les critiquait et disait, « Oh, en Alsacien, bien sûr, ils sont pas encore comme la belle-mère, hein, parce qu'elle savait faire des grands rebours et puis tout. » Vous voyez? Hein? Il y a trois péchés qu'on peut commettre contre le kouglof. Premièrement, prendre le lait trop chaud, ce qui tue le ferment du levain, de la levure de boulanger. Ensuite, ne pas assez travailler. Et ensuite, ne pas le laisser monter assez longtemps. Il ne faut pas être avare du temps. Il faut que le kouglof ait son temps de monter dans une pièce à température ambiante, pas froide ni trop chaude, sans ça il monte trop vite, voyez-vous. Et à ce moment, lorsqu'il arrive au bord du moule, presque on l'enfourne pendant 50 minutes environ. Il est très apprécié en ce sens, c'est que lors des réceptions, il remplace souvent les toasts qui sont longs à faire. Et en Alsace, comme nous avons du vin blanc sec, ça permet d'avoir, de faire des réceptions qui vont assez vite. Voyez? Et mon père aimait particulièrement le kouglof. Il est décédé. Mais après un repas, même des grandes fêtes, après un repas, il disait toujours, il me faut, je dois le dire en alsacien, mais il faut le kouglof. Alors il voulait encore sa petite tranche de kouglof avec le café.
Vous ne vous lassez pas de confectionner des kouglof?
Oh, j'en ai fait pas mal là pour les fêtes de fin d'année. Et j'en ai fait beaucoup ce printemps parce que mon mari a eu la Légion d'honneur. Alors j'ai fait au moins 300 portions. J'en ai fait pour l'inauguration de notre salle paroissiale et de notre nouvelle église. Ils m'en ont demandé. Là, j'ai aussi fait quelques centaines. Oh, ce kouglof m'est déjà revenu cher, mais je suis contente d'avoir fait plaisir.
Pierre Bonte, il y avait une équipe autour de toi.
Eh oui. Ce reportage, me semble-t-il, c'était Laurent Cabrol qui l'avait fait, car Laurent Cabrol, avec Alexandre Lichat, ont formé une paire de reporters formidables avec moi de 75 jusqu'en 84. Et puis auparavant, à l'époque, bonjour monsieur le maire, il y avait Claude Bobin et Roger Ardouin qui ont assuré tous les reportages pendant près de 15 ans.
La cuisine, c'était aussi un des thèmes que tu évoquais avec les vedettes et les célébrités que tu interviewais,
parce que,
Alexandre.
Parce que les souvenirs d'enfance, c'est aussi ça, hein, c'est souvent les odeurs, etc. Et puisque tu parles de souvenirs comme ça de cuisine, je me souviens très bien de Jeanne Moreau, que j'avais été voir chez elle, et qui me parlait. Je crois que ses parents ou sa mère étaient restauratrices, et ça l'avait beaucoup marqué.
Eh ben, ça tombe bien, parce que après les infos, on va écouter Jeanne Moreau.
Formidable.
Et tout de suite, Marc Tronchot.
Le Tour de France des enfants d'Europe 1 avec aujourd'hui Alexandre Fronty et Pierre Bonte. On parlait de la cuisine, qui est bien évidemment indissociable de nos régions, de notre culture dans notre beau pays. Tout à l'heure, on a écouté Madame Muller qui nous donnait la recette du kouglof dans l'émission de Pierre Bonde qui s'appelait
Bon appétit la France. Oui.
Et avec Alexandre Fronty, on parlait de ces vedettes qui, elles aussi, confiaient les souvenirs de certaines recettes qui ont pu avoir une importance dans leur enfance. Et Alexandre, tu me parlais de Jeanne Moreau. Eh ben voilà, Jeanne Moreau.
Vichy, c'est une très belle ville. Oui, je me souviens des sources, des parcs, des bords de l'Allier. Beaucoup de balades en bicyclette, mais surtout les souvenirs les plus chers, c'est cette vie que j'avais chez cette mémé dans le Puy-de-Dôme. Parce que là, il y avait les moissons, après les moissons, il y avait les batteuses, il y avait la foire au mois de septembre, le jour de la Saint-Maurice. Pour moi, c'était vraiment une vie absolument libre et enchanteresse. Le massif central, vous savez, c'est un ancien massif volcanique. Les paysages sont très beaux, un peu sauvages. Il y a des orages l'été absolument terribles. Et ma mémé tenait une auberge. Elle servait des repas aux gens de passage et aussi à des pensionnaires qu'elle avait pendant l'été. Moi, je travaillais aussi bien pour ramasser les pommes de terre que arroser les fleurs, que faire leur accommodage, les épluchages, nourrir la basse-cour parce qu'il y avait beaucoup de poulets, de canards, de lapins. C'est là aussi, avec cette femme, que j'ai appris à faire la cuisine, et elle faisait une chose qui est absolument merveilleuse. Tellement bonne, moi j'en fais toujours, ça s'appelle le pâté aux pommes de terre, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de pâte feuilletée, et on met ça dans un plat à tarte, mais à bord assez haut, mettons à peu près 4 cm, et on remplit ça de pommes de terre émincées, très très minces, à la mandoline, saupoudrées de cerfeuil, de sel et de poivre, et on met un couvercle de pâte avec une petite cheminée. On fait cuire ça au four à peu près 40 minutes. Il faut mettre du beurre aussi à l'intérieur. Et quand c'est cuit, avec un couteau fin, on détache toute la partie supérieure du pâté. On le soulève sans le briser. Et là, on met énormément de crème fraîche. On attend que ça s'imprègne bien et on le sert sur la table avec de la crème fraîche en plus dans des récipients séparés. Et servir ça avec une viande rouge ou un rôti, c'est absolument merveilleux. Il y avait un bal à 20 km de là. Et nous, toutes les filles, moi j'étais la plus jeune, je devais avoir 12 ans à l'époque. On faisait 20 km en vélo pour aller au bal et on revenait 20 km. Et puis pas 20 km à plat, hein, parce que c'est montagneux, il y avait des côtes et tout. Et on avait la permission de minuit, mais pas plus tard, il fallait rentrer à minuit comme Cendrillon. C'était les accordéons, c'est ce qu'on appelait des planchers, qui étaient installés dans des granges. Et alors là, tous les garçons et toutes les filles de tous les villages, on se retrouvait. Les planchers, ce sont des gens qui faisaient le tour des petits villages avec des sortes de roulottes, mais qui étaient tirées par des chevaux. Et comme on ne peut pas danser sur la terre battue, ils installaient des grands planchers qui étaient équilibrés et sur lesquels on pouvait danser. Moi, j'ai eu mon premier vélo, j'avais 12 ans. Mais autrement, pour aller chercher le lait, je faisais 3 km. 3 km aller, 3 km venir. Aller chercher les œufs des poules, parce que les poules, elles n'étaient pas toutes dans le poulailler. Ma mémé avait des prés. Et elle avait des prés et elle avait aussi des champs à blé. Alors, les poules étaient là et elles avaient des nids. Mais elles n'allaient pas toujours dans leur nid pondre. Et il fallait qu'on fasse ce qu'on appelle les bouchures, c'est-à-dire les haies qui étaient assez hautes, des haies de mûrier, de noisetier. Et on allait à la tombée de la nuit, mais ça représentait 4-5 kilomètres, pour ramasser les œufs. Et on les comptait à peu près. S'il n'y avait pas le compte, il fallait marcher à quatre pattes et essayer de trouver dans les haies les bouchures où les poules anarchiques avaient pondu leurs œufs. Et puis, à cette époque-là, les poules qui étaient en liberté, chaque propriétaire les baguait. Par exemple, les poules de ma mémé étaient baguées de rouge. Alors, il y en avait baguées de jaune, de vert, de noir, d'orange, enfin, des couleurs différentes. Et quand on faisait l'appel des poules, alors là, dans le poulailler qui était derrière la maison de ma mémé, on criait comme ça, petit, 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 et on comptait. Et s'il n'y avait pas le compte, on partait dans le village à toute pompe pour essayer de voir s'il n'y avait pas des poules baguettes rouges qui n'étaient pas entrées dans un poulailler qui n'était pas le leur.
Dans l'intimité de Jeanne Moreau, Alexandre, en écoutant ça, tu disais c'est touchant, et Pierre ajoutait c'est aussi un autre monde.
Oui, on a l'impression que c'était il y a 150 ans. Ça semble tellement lointain.
Alors que ça remonte à...
Rien.
Fin des années 70.
Je l'ai enregistré il y a une trentaine d'années.
Et pour Jeanne Moreau, ce sont des souvenirs qui remontent donc juste à l'époque de la dernière, de la Grande Guerre, ce qu'on appelle des années 30, 40, peut-être vers 40. Mais c'est ça le phénomène le plus important du XXe siècle, à mon avis. C'est ce bouleversement complet du monde rural avec la disparition de la petite agriculture.
Mais pas seulement le monde rural. Moi, je sais que quand je me souviens de mes propres souvenirs d'enfance, je suis né à Toulouse, mais je suis venu très, très jeune à Paris. J'habitais dans le 15e, il y avait une usine à glace, parce que il y avait de la glace dans les brasseries, il n'y avait pas encore de réfrigérateur, et il y avait des chevaux, des percherons, qui tous les matins venaient chercher la glace et qui faisaient la tournée des cafés dans Paris. Quand je raconte ce genre de souvenirs, on me dit, mais tu as quel âge? Tu as 200 ans, c'est pas possible. Ça, c'était dans les années 50, quoi. Mais c'est vrai que, comme dit Pierre, le monde a basculé très très vite.
Tout est allé très très vite. Et tout s'est accéléré au cours des derniers demi-siècles.
Et c'est vrai que quand on entend Jeanne Moreau, surtout avec cette voix beaucoup plus juvénile, etc., c'est tellement touchant, enfin, formidable, quoi.
On est content d'avoir connu ça aussi. Hein, aujourd'hui, on peut dire, bon, c'est beau d'être jeune, c'est bien aussi d'avoir connu ce genre d'époque.
Ajaccio en 1910, ça te dit quelque chose, Alexandre?
Non.
Non? Tino Rossi, ça lui dit quelque chose.
C'était une époque où il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas encore l'électricité, l'eau dans les maisons n'existait pas. Ben, je parle tout au moins dans mon quartier. Moi, je suis né dans rue Fèche, rue du Cardinal Fèche, c'était c'est la rue à Ajaccio la plus populaire. Et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, la première des choses que j'ai faites, ça a été d'installer l'eau chez moi. Enfin, chez mes parents. Il y avait encore des chartons. On vendait l'eau dans la rue, dans des grands tonneaux. L'eau était très rare. Eh bien, il y avait un vendeur d'eau qui passait avec un mulet, puis un grand tonneau avec un peu de verdure dessus, et il vendait de l'eau, comme ça dans la rue, parce que l'eau, l'été surtout, était très rare. C'était un village, tout le monde se connaissait. Par exemple, les amis de mon père, quand j'étais gosse, je croyais que c'était des parents. Vous voyez, je le craignais autant que mon père. Quand je le rencontrais, que j'étais en train de faire quelque chose qu'il ne fallait pas, et qu'il y avait un ami de mon père qui me voyait, eh bien, j'avais la trouille. « À l'époque, on se baignait le matin de bonne heure, à 6 heures du matin, parce que l'eau était meilleure, et puis on avait peur du soleil. Nos parents ne nous laissaient pas sortir. Enfin, des fois, on s'échappait. Entre midi, mettons, 11 heures, mettons, 11 heures, et 3 heures ou 4 heures l'après-midi, on nous empêchait de sortir. Enfin, parce que le soleil tapait. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faisait plus chaud. Maintenant, on sort toutes les heures et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faisait plus chaud. C'était peut-être pas le cas. Mais enfin, on se baignait de très bonne heure. Ou alors, on allait sur la jetée. Moi, j'habitais un peu en haut de la jetée, c'est-à-dire un peu plus haut. Enfin, on descendait une rue, on était au port. Et au port, on apprenait à nager, c'est-à-dire qu'on n'apprenait pas à nager. C'est-à-dire que celui qui ne savait pas nager, on le poussait dans l'eau et puis il se débrouillait. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Ça a été ma première piscine. Il y a une coutume qui existe toujours, malheureusement moins, parce que maintenant il y a l'électricité partout et on voit la nuit comme en plein jour, tandis que là, entre les arbres, très peu de lumière ou pas du tout, ça favorisait ce romantisme, la sérénade. Et alors j'étais une espèce de Cyrano. J'étais une espèce de Cyrano parce que tous les copains me disaient, dis donc, allez, il faut qu'on aille, je connais une fille comme ça, allez, tu viens. Alors, il y avait des amis guitaristes et on faisait, alors on allait là-bas, on jouait un peu de musique et puis moi je chantais. Et rien qu'au revoir, murmurer tout bas, en me serrant la main, et mon cœur brisé, suivez vos pas au loin, sur le chemin. Pourquoi n'avez-vous pas surpris, etc., etc. C'était très joli la nuit parce qu'on n'entendait aucun bruit, on n'entendait que ça. C'était une espèce de bruit de nature. C'était une atmosphère. Quand je partais en vacances, il y avait encore les diligences. C'était des parents, moi, justement, qui avaient ça. Et alors, je montais là-dessus. Des fois, dans les montées, il fallait descendre et pousser avec. Et pousser aussi. Pour faire 50 km, on couchait en route. Vous vous rendez compte? Et alors, chaque petit village qu'on voyait avant d'arriver où j'allais, mais j'étais ballotté de l'un à l'autre, tout le monde m'embrassait. Il disait, guarda, amigo, voglio la reine sous mer, parce que mon père, on l'appelait le maire, je sais pas, parce qu'il était très populaire, peut-être. On l'appelait le maire, guarda, voglio la reine sous mer. Il disait, arriva babbe, che tu vista ta, la santa, così, quoi. Alors, tout ça, ça, moi, j'étais gosse, tout ça, je bourdonnais dans mes oreilles. Et tous les villages, comme ça, vous accueillaient. Je dois dire que c'était plus familial que maintenant. Tout est beau en Corse. Vous savez, dans un petit espace, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez les forêts magnifiques avec des pins ou des sapins de plus de 100 mètres. À l'intérieur, vous avez par exemple des coins où vous avez l'impression de voir surgir des hommes préhistoriques, des hommes immenses. Tellement c'est fantastique. Et au bord de mer, évidemment, c'est ravissant. La mer est d'une couleur extraordinaire, puisqu'elle est battue par la mer de tous les côtés. C'est une île, fatalement. Et il y a des paysages remarquables. Les calanques de Piane, vous avez des cathédrales, des rochers. Non, vraiment, c'est un pays extraordinaire.
Alexandre, on écoute Tino Rossi, on pourrait l'écouter des heures, on ne l'entend pas souvent, on n'a pas entendu souvent sa voix. Et est-ce qu'il y a des artistes, des vedettes, des célébrités comme lui qui ont refusé? Quel accueil on te faisait quand tu proposais l'émission?
Il n'y avait pratiquement pas de refus. Moi, c'est une chose qui m'étonnait énormément. Je téléphonais, j'étais jeune journaliste à Europe. Alors, c'est vrai qu'il y avait le label Europe 1. Bon, ça, c'était un plus. Mais je crois aussi que quand j'appelais Tino Rossi pour lui demander de parler de son enfance, tout de suite, les gens réagissaient, et réagissaient positivement, parce que voilà, c'est un regard différent. Et c'est vrai que quand je réécoute la Tino Rossi et qui nous raconte qu'il montait en diligence, enfin, etc. Enfin bon, c'est là aussi, c'est des souvenirs qui semblent tellement lointains, mais ça, je le réécoute avec plaisir.
Il en parle formidablement bien.
C'était pourtant un vieux monsieur. Je me souviens l'avoir vu dans son grand appartement de Neuilly, là près du Bois de Boulogne. Moi, j'étais très impressionné de rencontrer Tino Rossi, même si c'était pas ma génération. Puis je suis tombé sur ce monsieur, et puis voilà, et puis ça coulait.
Il faut dire que tout est relatif. Hein. Aujourd'hui, on est vieux si on dit qu'on a vécu sans portable, par exemple.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous dites à vos enfants que vous avez
avez connu une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, où il n'y avait pas d'ordinateur, ils vont vous regarder avec des gros yeux. C'est vrai que moi, quand j'étais reporter à Europe, je me souviens, on allait en province, il y avait des téléphones, il n'y avait pas de téléphone automatique dans certains endroits, il fallait appeler une standardiste et on demandait un numéro à Paris, on était obligé de passer par la standardiste. Alors qu'aujourd'hui, vous sortez votre portable, youpi.
Est-ce que tu as eu à certains moments l'intuition que tu enregistrais en... C'est un bien grand mot peut-être, mais pour la postérité, c'est des morceaux d'anthologie, ce qu'on
entend ? Non, pas du tout. Quand on est jeune, on fait hélas pas très attention. Moi, je me souviens avoir rencontré, pas dans le cadre de cette émission, Paul Morand, que j'ai longuement interrogé. Il habitait dans un hôtel particulier dans le 7e, sur les bords du Champ de Mars. Avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas resté plus longtemps? Pourquoi je lui ai pas posé de questions plus intelligentes? Non, je m'en rendais pas vraiment compte. Mais avec le recul, je m'aperçois que ce sont des morceaux d'anthologie, quoi. Pour l'histoire.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1, un petit tour de France avec Alexandre Frontier, Pierre Bonte. Pierre, on pourrait refaire l'émission à l'identique aujourd'hui. Tu t'imagines faire l'interview d'un maire de banlieue ou...
Ah, c'est difficile. Je le referai pas de toute façon parce qu'il faut jamais reprendre les vieilles recettes. Ce qui a été un succès en général quand il est repris, ça marche moins bien. Bon, et puis là, quand même la France rurale, puisque c'était quand même le toujours. Domaine moi dans lequel j'exerçais. Hein, c'était uniquement les communes rurales, moins de 2000 habitants. Elle a quand même beaucoup changé. Autrefois, le maire, c'était toujours un vieil habitant du pays qui connaissait par cœur les traditions, l'histoire de sa commune. Aujourd'hui, il y a une population nouvelle dans les communes rurales et il y a peut-être un peu moins cet esprit de clocher qui faisait le charme et l'intérêt de l'émission.
Alors, il n'y a pas eu que des maires, il y a eu des curés aussi. Il y en a un même joué des historiens avec un talent de conteur que Rabelais n'aurait pas renié. C'est celui de la commune d'Azincourt, théâtre d'une célèbre bataille pendant la guerre de Cent Ans en 1415, ce qui ne nous rajeunit pas.
La bataille a lieu exactement, monsieur, sur 4 kilomètres et 800 mètres de large. Voilà pourquoi que les Français ont été ridicules de vouloir mettre un si gros nombre d'hommes serrés les uns contre les autres. 40 000 Français contre 13 000 Anglais. Ils étaient serrés, ils ne pouvaient pas. Mais ils avaient des épées de 8 mètres, ils se les enfilaient les uns les autres. Et puis ils ne pouvaient pas, ils patauchaient dans la bidouille, dans du terrain labouré la veille. Tandis que les Anglais se trouvaient dans du seigle qui était poussé vert. La terre était rassise. Puis pas d'ordre. Tout le monde commandait, vous allez vous taire, vous là, c'est moi qui parle premier. Ils se sont fait tuer comme des lapins. Les Anglais se sont jetés dans leur derrière, et ils ont fait une bouillabaisse, une boucherie épouvantable.
Il y a eu des corps à corps.
Ah oui, oh là là, de 11h15, 11h30 jusqu'à midi et demi, ils se sont entretués là d'une façon épouvantable.
De part et d'autre, il y a eu combien de morts, alors, au total, finalement?
Total, il y a eu, je pense, 10 000 Français. Il y a eu des 5 princes royaux de France. C'était la fin de la féodalité. Il n'y a plus de seigneur. Alors, le pouvoir royal va grandir. Surtout avec Jeanne d'Arc qui a donné des coupées à notre dauphin, à Charles VII, qui ne voulait pas, mais c'est qu'elle l'a fait marcher. Et après, quand elle a été tuée, c'était le plus grand roi de France. Il a mis dehors les Bourguignons, il a mis dehors tous les Anglais, plus un seul.
T'en as eu beaucoup des comme ça, Pierre?
Ah oui. Oui, des gens qui parlaient avec cette spontanéité, ce naturel, c'est ça que je recherchais et qu'on trouvait à l'époque encore assez facilement.
Il y a eu des situations cocasses aussi.
Oui, des histoires de clochers incroyables, des rivalités entre les villages. Je me souviens de l'histoire de Dom Martin, dans le Doubs, Dom Martin et Houteau, qui avaient ces deux communes voisines, mais qui avaient qu'une seule église, qui était située sur la commune de Dom Martin. Alors ça a créé des histoires pas possibles. Pour chaque fois qu'il y avait une réparation à faire, et en particulier quand la cloche a été fêlée, il a fallu que les communes se partagent les frais de restauration, elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et finalement, c'est grâce à Bonjour Monsieur le Maire que la solution a été trouvée.
T'as réconcilié du monde.
Oui, c'est-à-dire qu'une auditrice a entendu que les communes n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour réparer la cloche qui sonnait l'Angélus, donc elle a donné l'argent nécessaire, en demandant simplement que désormais, tous les ans, la cloche sonne le glas le jour anniversaire de la mort de son mari.
Tu te souviens d'une mairie qui pouvait se transformer en église et réciproquement ?
Oui. C'est effectivement, c'était dans le Cher, non?
Oui.
C'est pas ça? Oui. Ouais, je me souviens plus du nom de la com, je ne dirai pas jusque-là, mais j'aimerais bien retrouver ce document.
C'est effectivement quelqu'un qui avait racheté une église et comme il était devenu maire, il a eu l'idée de faire que l'église se transforme en mairie et que la mairie se transforme en église au gré des besoins. Il y a eu quelques années plus tard aussi un autre témoignage que j'ai retenu parce que je le trouve touchant, je le trouve drôle également. C'était dans l'émission Vive la vie. Pierre, c'est encore toi. Le concept, c'était de faire connaître là une région.
Plutôt une région ou des personnages qui étaient particulièrement savoureux.
Alors là, il y en a un. On est en Guadeloupe et c'est avec Laurent Cabrol. Une rencontre assez étonnante avec ce que j'appellerais une sorte de dresseur de langoustes.
Ce qui attire les touristes en Guadeloupe, c'est d'abord bien sûr le soleil qui brille toute l'année et puis les plages de sable fin. Mais il ne faut pas négliger l'attrait de la langouste. Les touristes font une consommation effrénée de langoustes parce que elle est ici bien moins chère qu'en métropole. Hélas, cette langouste que l'on trouvait autrefois en abondance dans la mer des Caraïbes est en train de se raréfier parce qu'on l'a pêchée à tort et à travers. Actuellement, 65% des langoustes consommées en Guadeloupe sont importées de Cuba. Ce sont des langoustes surgelées. Et chacun se demande comment faire revenir la langouste dans les eaux proches de la Guadeloupe, car personne, jusqu'à présent, n'a réussi à l'élever. La langouste est encore un animal mystérieux. Eh bien, avec Laurent Cabrol, j'ai découvert, à Saint-Claude, une commune de la Guadeloupe, un homme qui affirme avoir percé le secret de la langouste. C'est un Guadeloupéen, M. Paul Mathieu, qui a étudié pour cela la langouste dans son milieu naturel, comme il nous l'a raconté.
Comme j'avais pas d'argent pour m'offrir des bouteilles d'oxygène, j'ai choisi un fond où je pouvais respirer avec un tuyau. Et je suis resté pendant 6 mois à leur donner à manger, à prendre dans des nasses, les relâcher, les habituer avec moi, parce que ils connaissent l'odeur, ils connaissent la façon de la personne qui les sert. Et ils deviennent à la fin comme des poules. Parce qu'ils viennent à l'heure juste, même si par mauvais temps, ils viennent à l'heure juste et pas une seconde de plus ou de moins. Et si vous leur donnez pas à manger, ils restent là. Et je suis le seul aux Antilles à dire qu'est-ce que c'est qu'une langouste. Parce que je connais une langouste à 2 mm, ça veut dire à l'état plancton, jusqu'à 10 kilos. Et je suis très fier parce que j'ai cherché pas mal de bouquins américains, hollandais, anglais, français. Eh bien, jamais ils ne parlent d'une langouste. Aucun scientifique ne peut donner un procédé valable sur la langouste. C'est presque des animaux familiers pour moi. Une langouste est 10 fois plus facile à apprivoiser qu'une poule. Il suffit de le faire comprendre qu'on n'est pas méchant, on le bouffe parce qu'on a faim. Et lui donner à manger. Oui, elle comprend très bien. Tous les animaux ont un langage. Elles ont un cerveau. Elles ont une cervelle, pas un cerveau. Mais elle se fait comprendre et elle comprend.
Monsieur Mathieu considère donc qu'il en sait suffisamment maintenant sur la langouste pour réussir à l'élever, c'est-à-dire à faire de l'aquaculture. Et il s'est associé pour cela avec un pêcheur de Saint-François, monsieur Renella.
Monsieur et moi, on essaie de sortir quand même, de leur montrer qu'on est capable de monter des fermes d'aquaculture et donner, satisfaire le tourisme.
Satisfaire la demande.
La demande et protéger, parce que là, si je crois que si on monte une coopérative, on peut fournir par mois une tonne de langoustes, aisément. Je ferais vivre peut-être 40 à 55% des habitants de la Guadeloupe.
Rien qu'avec votre ferme d'aquaculture.
Parce que je pense viser plus loin. Disséminer des fermes dans toute la Guadeloupe, former des émissaires pour qu'il aille dans des autres pays, porter ma culture dans l'archipel des Antilles.
Partout. Non, vous voyez grand, vous. Hein?
Il faut viser grand. Si on reste petit, on ne verra jamais le soleil. J'ai toujours pris exemple sur un cocotier. Un cocotier, ça démarre tout petit, mais ça part parce qu'il voit le soleil, il veut vivre avec le soleil. Moi, je veux vivre avec le soleil de mon pays.
Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait complètement réussi dans son projet, hein, Pierre.
Non, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'enquête, mais je n'ai pas entendu parler d'aquaculture de la langouste.
Bon, retour en métropole, et quoi de tel qu'une bonne recette de derrière les fagots. On va passer de la langouste au bœuf en daube. Mais alors, le bœuf en daube, comme vous ne le connaissez pas, Monsieur Delmas, de Montréal-de-l'Aude, il est au fourneau, et croyez-moi, ça ne plaisante pas.
Nous avons une petite merveille qui s'appelle le bœuf en daube. Le bœuf qui est destiné à la préparation de ce plat se prélève dans le jarret de la cuisse et non dans celui de l'épaule. Il s'accompagne obligatoirement de coin de porc, On le met à mariner la veille au soir avec de l'ail écrasé, de l'oignon en rouelle, du poivre, une feuille de laurier, un clou de girofle, quelques lamelles de cèpe séchées. Le tout est mis à cuire de très bonne heure le lendemain. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a un fumet tout à fait extraordinaire qui prend possession de la maison. Une heure avant de servir, la cuisinière ajoute ce qu'elle appelle un roux. C'est-à-dire de l'oignon que l'on fait blondir, du jambon de ménage préparé au poivre et au sel et conservé plusieurs mois sous la cendre et qui n'a rien à voir avec le jambon que l'on sert dans le commerce. Et il faut ajouter à ce moment-là, au risque de faire bondir les tenants de l'orthodoxie culinaire, voyez-vous, une coulée de café, une bonne coulée de cognac, à la rigueur quelques pommes à l'anglaise, pour leur permettre de profiter de ce qu'on hésite à appeler simplement le jus. Et il ne reste qu'à mettre sur la table, mais à mettre sur la table dans la terrine qui a servi à la cuisson. Et alors, on dispose pour toute la famille de cette merveille qui se suffit presque à elle-même. À peine quelques amuse-gueules, un dessert, naturellement ni Bordeaux, ni Bourgogne, au fumet trop rassé, pour résister à cette force de la nature qu'est le Bavandobe, mais un Minervois, un peu rude, un peu râpeux, un Haute-Corbière plus sec, plus nerveux, capable de jouer un rôle d'égal à égal dans cet affrontement où la règle du jeu veut qu'il n'y ait ni vainqueur, ni vaincu. Voilà ce que nous entendons par le Bavandobe.
Vous êtes cuisinier tous les deux, non ?
Non, je suis gourmand, mais je pratique pas la cuisine. Mais là, je me suis régalé uniquement à l'écouter, ce personnage. Je me souvenais plus de lui. C'est magnifique, quel raffinement dans le langage. C'est beau, hein ? C'est beau.
Il y avait de l'interactivité sur cette émission. Je veux dire, t'en as reçu des recettes. Il y avait des gens qui se bousculaient pour en donner.
Ah oui. Et puis les gens adorent parler de leur pays. C'est vrai, comme le disait Alexandre, ils adorent parler cuisine en France, quoi. On dit la bouffe, pour parler vulgairement. C'est un sujet de conversation inépuisable. Et j'ai eu d'autres exemples de personnages qui vous mettaient l'eau à la bouche rien qu'à parler d'un produit ou d'une recette.
Il y a quelque chose qui était formidable avec l'émission de Pierre Bonte, c'est que c'était pas seulement le terroir, c'était aussi l'accent, quoi.
Ah oui.
Aujourd'hui, l'accent disparaît un peu. À l'époque, c'était beaucoup plus présent, surtout dans le sud, le sud-ouest, etc. Quand on écoutait ce type, ce qui avait de formidable, c'était sa manière de parler, mais aussi son accent.
Et l'accent, oui, qui donne une musique particulière et en même temps qui donne de la couleur finalement aux propos, ça réchauffe l'accent, c'est fantastique. Et c'est vrai que je l'exploitais, ça, je cherchais dans une commune ceux qui avaient si possible l'accent du terroir.
Spider's Web, c'était Cathy Mélua sur Europe 1. Et tout de suite, Marc Tronchot, le Tour de France des enfants d'Europe 1.
La suite du Tour de France des enfants d'Europe 1, le pays d'où je viens, avec Alexandre Fronty. Bonjour monsieur le maire, avec Pierre Bonte. Deux émissions qui ont marqué les auditeurs, qui continuent de nous marquer aujourd'hui, quand on entend, messieurs, ce que vous avez pu produire comme témoignage de cette France profonde. Il y a un moment où on peut presque faire la liaison entre vos deux émissions. Un maire de grande ville qui parle du pays d'où il vient, ton pays, Pierre, le Nord. Bah, oui. Et il a aussi ton prénom, d'ailleurs, il s'appelle Pierre Monroy, le fils d'Instit, socialisme héréditaire. Et à ce moment-là, il n'imagine pas forcément qu'il sera, au micro d'Alexandre Fronty, Premier ministre en 81. C'est dans le pays d'où je viens.
Je suis fils d'instituteur et par conséquent, c'est l'école. L'école qui est la communauté, qui est une institution où l'on apprenait la République, où on apprenait l'autorité. Je me souviens par exemple que dans le corridor de l'école, il y avait la photographie d'un vieux monsieur qui était moustachu, barbichu. Et un beau jour, je demande à mon père, qui était avec sa grande blouse grise, je lui demande, mais qui est ce monsieur ? Et mon père m'a regardé, mais voulant m'insuffler toute l'autorité qu'il avait en lui, le respect que l'on doit à ceux qui occupent de hauts postes, m'a dit, c'était monsieur l'inspecteur d'académie du département du Nord. Quand je vois comment mon fils parle maintenant du ministre de l'Éducation nationale, on mesure combien les mœurs, les sentiments ont évolué. Toute la vie du village, c'était le flux le matin de 600 à 700 ouvriers, hommes et femmes, qui partaient vers l'usine, qui était à 10-15 kilomètres. Et le soir, le train les ramenait, ils revenaient au village. Si bien que mon village était morne, triste pendant toute la journée, et les hommes, les femmes étaient partis dans les filatures, les hommes étaient des sidérurgistes, ils étaient partis à la mine, et ils revenaient le soir pour donner cette animation extraordinaire que seuls les ouvriers peuvent donner à un village, parce qu'ils ont le sens de la solidarité, le sens de la fraternité, le sens de la générosité. Alors mon village, c'est aussi la fête et les grandes fêtes. La fête, c'était tous les dimanches. Tous les dimanches, ils étaient socialistes. Et la section du Parti Socialiste se rassemblait sur la place tous les dimanches. La musique se mettait en avant, les hommes étaient en chemise bleue et cravate rouge, et il faisait le tour du village en chantant tous les chants révolutionnaires et évidemment l'international. On s'arrêtait devant l'école et on chantait l'international devant l'école. On s'arrêtait devant la maison du maire, on s'arrêtait devant la mairie. Et puis, il faut bien le dire aussi, on s'arrêtait devant les estaminets où tranquillement on prenait une bière. Et c'est comme il y avait 22 estaminets dans mon village, il y avait de quoi occuper comme cela toute l'après-midi. Village, la rue appartenait aux ouvriers. Sur le trottoir, avec par-dessus et leur chapeau, c'était les contremaîtres, les ingénieurs, ceux qui représentaient la maîtrise et qui n'étaient que quelques-uns, la grande majorité, étaient des ouvriers. Ils étaient pratiquement tous habillés de la même façon, avec des pantalons de velours, habillés de noir d'ailleurs, et avec une gypsière. D'ailleurs, la gypsière qu'on leur avait offert quand ils étaient dernière année de l'école, quoi, l'année du certificat d'études, ils l'avaient gardée toute leur vie. Ils allaient à l'usine, ils revenaient de l'usine avec leur gypsière d'écolier. Ils étaient plaqués, c'était avant la guerre 40-45. Par conséquent, on était plaqués à la Valentino, quoi. Chez moi, ma mère me disait que c'était du gomina, mais moi je savais que le gomina coûtait cher et que par conséquent on prenait de l'eau sucrée. Colonneux, ce sont ceux qui aiment les pigeons et qui s'occupent des pigeons et qui ont des pigeons. Et alors, les journées d'été, le pigeon le matin ou la veille est parti pour Bordeaux, est parti pour Tours, est parti pour Angers. Et le dimanche, toute la famille est rassemblée. Il fait beau, par conséquent, la table, on la met dehors. Toute la famille parle, les familles du Nord sont des familles bruyantes. Et puis peu à peu, vers 3h, 3h30, l'heure où on peut supposer que le pigeon venant d'Orléans, venant de Tours ou venant d'Angers va arriver au-dessus de son pigeonnier, peu à peu les bruits cessent, peu à peu. De temps en temps, le père de famille regarde son assiette et lève les yeux vers le ciel. Et tout d'un coup, le voilà. Et c'est à ce moment-là, ce pigeon qui est un petit point imperceptible dans le ciel est en train de faire son point fixe. Et à partir de là, il va se laisser tomber comme une pierre sur la maison. Et dès qu'il est rentré dans le pigeonnier, que par conséquent l'heure d'arrivée est enregistrée, l'homme par conséquent prend la bague et s'en va au café qui est le siège des coulonneux pour déclarer que son pigeon est rentré, qu'il est rentré à telle heure. À partir de ce moment-là, on fait des calculs absolument extraordinaires pour savoir qui a gagné la course parmi tous les pigeons qui sont partis d'Orléans, de Tours ou d'Angers.
Le village de Cartigny dans le Nord, raconté par Pierre Mauroy. Ils ont du talent quand ils parlent
quel poète,
chez eux.
Quel poète, ah oui. Moi, je le trouve formidable à le réécouter comme ça. Mais c'est pas seulement anecdotique, hein, parce que on comprend mieux la carrière qu'il a pu avoir ensuite, ce Pierre Mauroy. Je veux dire, il parle tellement bien là, de ses estaminets, de ses ouvriers, de ses chants révolutionnaires, etc. C'est vrai que ça marque. L'enfance, ça marque une vie, quoi.
Le Tour de France des enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Pierre Bonte, oui. pour toi, il n'y a jamais eu de trou perdu.
C'est-à-dire ?
Il n'y a jamais eu de commune qui ne valait pas le coup.
Toutes les communes n'ont pas le même intérêt quand même. La difficulté de l'émission, c'était de trouver chaque jour une commune qui avait une particularité originale, intéressante, qui la distinguait des 36 000 autres communes françaises. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'on arrivait à peu près toujours dans une commune, oui, à trouver quelque chose qui la rendait intéressante.
Est-ce qu'il y a eu des exemples de cette émission à l'étranger, chez nos voisins ? Est-ce qu'elle a inspiré d'autres ?
Oui, il y a un des premiers porteurs de l'émission qui s'appelait Pierre Lang, qui vit toujours d'ailleurs, et qui m'a quitté au bout de quelques années pour aller créer en Suisse, son pays de naissance, pour aller créer une émission qui s'est appelée Esprit de Clocher, et qui a perduré, oui, pendant pas mal d'années.
On va terminer avec deux conteurs, chacun son talent, chacun son pays. Si vous passez ou si vous êtes du côté d'Audierne, vous ne savez peut-être pas que vous êtes dans le pays natal d'un grand écrivain, un écrivain breton, Père Jacques Elias.
Mon pays se trouve sur la baie d'Audierne, qui est une baie très ouverte, et aujourd'hui encore on peut voir le long de cette baie des kilomètres et des kilomètres de murs en pierre sèche qui ont été élevés autrefois pour garantir contre le vent de Galerne ou de Suroy les champs de pommes de terre et les cultures qui sont tout à fait sur la côte. J'ai entendu une fois quelqu'un qui s'appelait Ewan Moros raconter à mon grand-père, d'ailleurs Alain Le Goff, la légende de ces murs. Ils parlaient tous les deux d'un personnage que l'on appelait Jan Arvein, Jean des Pierres, et qui aurait été celui qui avait imaginé de monter ces murs-là. Par exemple, quelqu'un avait besoin de faire un mur autour d'un champ. Ils en allaient trouver Jan Arvein, Jean des Pierres. Il disait, est-ce que vous voulez venir chez moi me monter un mur dans ma pièce de terre de Perros, par exemple ? Jan Arvein arrivait, le maître de la ferme avait fait amener la provision de pierre pour faire le mur, et Jean des Pierres était là, et il donnait les ordres, les gens mettaient les pierres les unes sur les autres, et Jean des Pierres écoutait le bruit que faisait le vent en passant dans les interstices des pierres. Et de temps en temps, il arrêtait les ouvriers en disant, écoutez, non, enlevez-moi cette pierre bleue qui est là, vous ne voyez pas qu'elle est en train de se plaindre, elle n'est pas à son aise, vous ne voyez pas qu'elle chante faux, il faut me l'enlever, mettez-en une autre à la place, on mettait une autre à la place, il écoutait de nouveau, il disait, bon, ben ça va, la symphonie était bonne, n'est-ce pas, le chef d'orchestre était content. Je suis né dans un lit clos et j'ai couché dans ce lit clos jusqu'à l'année de mon bachot. Le lit clos, comme son nom l'indique, était une sorte de cage de châtaignier ou de chêne qui était fermée par des portes à glissière. Ce lit-là, c'était une sorte d'appartement particulier à l'intérieur d'une salle commune, par exemple, où il y avait des quantités de gens qui couchaient. Et le banc qui était devant servait de descente de lit ou de tapis pour éviter de se geler les pieds. Et dans ce banc, il y avait le linge des habitants du lit. De chaque côté, il y avait d'ailleurs des accoudoirs creux, dont le haut se levait comme un couvercle. Et à l'intérieur de l'un des accoudoirs, il y avait le sel, et de l'autre côté, il y avait la provision de tabac. L'endroit du lit où se trouvait le personnage, on appelait ça bêtement ce monde-ci. Au-dessus, il y avait une sorte de galerie qui était faite de petites sculptures, des petites statuettes en céramique qui représentaient une Notre-Dame ou Sainte-Anne, etc. Cela, on appelait un néant le ciel. Et le bas du lit, celui qui était dissimulé par le banc, s'appelait l'enfer. Il y avait donc toute une sorte de cosmogonie religieuse qui était signifiée par ce lit-là. L'école, c'était évidemment la République, c'est la République française. On y parlait le français, il était d'ailleurs interdit de parler breton. Ceux d'entre nous qui parlaient breton se voyaient en général attribuer une punition qui consistait à conjuguer à tous les temps et à tous les modes des verbes absolument invraisemblables comme le verbe dactylographier. Je rentrais à la maison, j'avais eu le malheur de parler le breton à l'intérieur de l'école et je devais donc faire cette conjugaison par écrit sur un coin de table à la lueur d'une bougie pendant que ma mère préparait à manger au cochon ou à la vache. Et je m'escrimais naturellement sur les que je dactylographiasse, que nous dactylographiassions. Mon grand-père aimait beaucoup les arbres et il allait voir les arbres par jour de vent. Et il me disait, le vent essaie d'arracher les arbres parce que le vent est une sorte de puissance mauvaise qui essaie de séparer la terre du ciel. Or, qu'est-ce qui relie la terre au ciel? Qu'est-ce qui relie la créature au créateur? C'est l'arbre. L'arbre introduit dans le ciel des racines célestes que nous appelons des branches, et il introduit dans le sol des racines telluriques, terriennes, que nous appelons des racines en réalité. Il y a des racines des deux côtés. Et il est peut-être plus difficile d'enfoncer ces racines dans le ciel que de les enfoncer dans la terre. Parce qu'en réalité, s'il était facile d'enfoncer des racines dans le ciel, les branches des arbres seraient droites. Et c'est le maître vent qui est un peu diabolique, qui essaie, en fourrant sa langue entre les racines du ciel et les racines de la terre, qui essaie de déraciner l'arbre de façon à faire partir le ciel, à le faire s'en aller vers des endroits où aucun être humain ne le retrouvera plus jamais et nous resterons tout nus sur la terre.
Ce pays, Pierre Bonte, c'est vraiment beau ce pays.
La France ?
Oui.
Ah ouais, moi je ne m'en lasse pas, je suis amoureux de la France, grâce à Bonjour Monsieur le Maire d'abord, c'est cette émission qui m'a fait découvrir ce pays.
Il y a quand même des moments, là on vient d'écouter Père Jacques Azalias dans Le Pays d'où je viens avec Alexandre Fonty, il y a des moments où on ne sait plus si on est dans l'émission de Pierre Bonte ou dans celle d'Alexandre Fonty.
Je crois qu'on a travaillé le même terreau, les mêmes émotions, en tout cas, qui sont celles qui nous rattachent à notre enfance. Et notre enfance, c'est souvent le village et par conséquent et le clocher.
C'était un peu le même registre. Hein. Oui. Je dirais que la grande différence, c'est que Pierre Bonte, c'était le pape des anonymes, alors que Le Pays d'où je viens, c'était plutôt les gens illustres. Mais le fond était le même.
Mm-hmm. On va en écouter un anonyme pour terminer cette émission. Si vous êtes du côté de Sancerre, vous aurez une pensée pour lui. Et on l'appelait Tisane, qui, comme son nom ne l'indique pas, le monsieur qui est surnommé ainsi, il est vigneron.
Oui.
C'est un de tes préférés, non, Pierre?
Oui, on l'appelait Tisane parce que c'était son juron.
Donne-moi donc à quoi boire, Joseph, la tisane.
Monsieur Planchon.
Attendez, non, j'ai bu un coup de tisane pour mon sang. J'étais bon, moi, celui-là. Hein.
Pour répéter, tisane, d'ailleurs, c'est le surnom que vous avez ici à Sancerre où vous êtes très connu. Pourquoi vous appelle-t-on tisane?
Ah, tisane. Ah, ben, c'est... J'aime pas jurer. Parce que quand je vais en confesse, j'aime pas m'accuser de ce péché-là, mon vieux.
Alors, tisane.
Alors, je dis tisane et puis c'est pas juré. Alors j'ai pas à m'enturer d'y dire, eh ben, j'ai offensé le nom de Dieu, alors j'ai pas à m'excuser de ça, mon vieux.
Quelle est votre profession?
Eh bien, écoutez donc, quand j'ai quitté l'école vers 11 ans, hein, j'ai eu mon certificat à 11 ans, il m'a donné une grande culotte, mon père, à 11 ans, puis j'ai fait le vigneron. Mais je suis resté vigneron pour une raison, c'était surtout pour maintenir la tradition. Et je voulais pas que ce bien il soit vendu. Hein. Mon père, il avait tellement peiné, figurez-vous donc. Et que moi, à 11 ans, j'ai moissonné le blé à la faucille, hein. On connaissait pas la moissonneuse. Mon père, il disait tout le temps, il dit, moissonne bien, place bien ça, sur le lien, laisse du morillon. Il disait, ça coule encore bien mieux dans la batteuse. Il dit, ça n'en perd pas un grain. Ah, tout ça, c'était des vieux qui avaient fait la France. Ah, tisane. On moissonnait à la faucille. Après, on a eu un d'or. Et je me rappelle, j'étais pas bien épais. Oh, j'étais pas bien gros. Après, ils ont acheté une javeleuse en 23. Ah, je me rappelle bien. Bon sang, c'était un coup d'état. Il avait acheté ça en deux, parce qu'il était pas mal riche quand même, malgré qu'on dit qu'il y avait des lessiveuses. Ils ont eu la javeleuse, après ils ont mené les moissonneuses. Ah. Et tout à l'heure, il y a les moissonneuses batteuses, vous me croirez si vous voulez, on ne veut même plus mettre dans les sacs. Ils mettent ça en vrac. Hein? Dans le temps, le grain, il avait le temps de sécher, de mûrir. On mangeait du bon pain. Quoi qu'on mange tout à l'heure, hein? Avec du blé, on peut même plus manger du bon pain. Vous croyez-vous que c'est du progrès, ça, vous? Ah non, ça va plus, ça, cinéma.
Aujourd'hui, vous ne faites plus votre pain, mais vous faites votre vin, quand même.
Ah, ça, j'y tiens.
Vous êtes propriétaire?
Et je suis propriétaire. Et je soigne ma vigne en vieux jaloux. Malheur à qui lui fait les yeux doux, qui voudrait caresser la belle. Et si je suis resté à la terre, c'est... La terre, elle devait me nourrir, forcément, mais c'est par amour. Parce qu'aujourd'hui, la vitesse... Ils appellent ça la météorologie, la vitesse du vent. Moi qui ai vu la berouette, hein, la brouette, la seule roue, hein. Aujourd'hui, on en est à l'ère atomique. Ça va à une vitesse, ça nous dépasse. Mais ça vaut plus le coup d'être vécu. Ça va trop vite, hein. Et vous savez, j'admire le Parisien, hein. Parce que ce gars-là, mon vieux, on le prend le matin à froid. Il cavale 3 heures pour faire son boulot, hein. Et hardi, je te visse des vis. Tant pire si c'est... Enfin, bon, non, c'est pas du boulot, sans doute. Dites donc, et si je vous racontais, quand c'est que mon vin l'est fait, quand c'est qu'il fermente, là, genre, et le soir, on arrive, on n'en boit que canon, avec les copains, on fait le tarot. Tiens, quand on a bien mangé l'après-midi, je dis à la bourgeoise, et je dis, dis donc, je te mote tes chèvres. Bon, elle dit, tu me ferais-tu ça? Je dis, ma nénette, te ferais ça? Elle dit, tu vas voir. Eh bien, mon vieux, je pars dans la nature, je suis heureux comme un pape.
Avec vos chèvres.
Oh, je suis content, mon, je suis content. Là, au moins, j'ai le temps de penser. Et c'est pour ça que je suis resté. Parce que, à mon avis personnel, celui qui ne pense plus, il ne vit plus. Ben, dis-donc, hein, Joseph, tu...
Eh, ben, si tu veux...
Mon vieux, c'est un gars d'Europe numéro 1. C'est ben des bons gars, mais ça boit pas souvent là-dedans.
C'est les sciences humaines, ça, hein?
Ah oui, c'est...
Un bonheur d'ethnologue, je veux dire, tout ce qu'on a entendu, oui, pendant cette heure et demie passée ensemble.
Exactement, et c'est pour ça que je suis content que ces émissions, Bonjour Monsieur le Maire, bientôt, je crois, vont aller à l'INATEC, et elles seront mises à la disposition de tous ceux qui auront envie de travailler sur la mémoire orale et sur cette France rurale qui a tellement changé, on le disait tout à l'heure, au cours du dernier demi-siècle.
Ouais. Et on en a beaucoup appris sur cette France qui est un petit peu derrière nous et dont on est les héritiers, les successeurs. Alexandre Fronty, un petit mot pour terminer.
Bah écoutez, moi je travaille aujourd'hui dans la production, je produis des documentaires télé. Autant je pense que l'émission de Pierre Bont, effectivement, il serait difficile de la remettre au goût du jour. En revanche, le pays d'où je viens, c'est toujours actuel, quoi. Que ce soit à la radio ou à la télé, ça peut encore faire de très très bonnes émissions. Car encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de prendre un personnage public et de le faire parler en décalage, autrement, différemment, et l'enfance, c'est inépuisable, quoi.
Et c'est commun à tout le monde. Donc je veux dire que brusquement, la personne célèbre, la star, devient Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde parce que tout le monde a eu une enfance de ce style-là.
Et c'est peut-être le plus sûr moyen de pas avoir de langue de bois ou ce langage technocratique un petit peu envahissant.
Quelle que soit la personnalité politique ou autre, vous le branchez sur l'enfance. enfance, là on se laisse aller, là il n'y a pas de langue de bois. Quoi.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme on disait chez les Shadocks, ce Tour de France touche à sa fin, on en fera d'autres, hein, soyez sûrs. Merci messieurs, merci Alexandre Fronti, merci Pierre Bond de tous ces documents.
Merci de votre attention.
On se retrouve autour des Enfants d'Europe 1 chaque semaine, le lundi, le vendredi, entre 10h30 et midi, ce qui veut dire qu'on se retrouve très vite.
On a hâte de vous retrouver vendredi matin, hein, pour telle l'abeille butiner ses trésors, ce pollen qui sort des archives et que vous débusquez.
À demain, Marc Menon.
C'est au bout du regard, là où les bateaux quittent la mer, là où l'horizon est tellement plus clair. La belle étoile, celle qui te dit que la vie ici ne sera jamais rien que ton ami. C'est au fond de tes yeux, là où le monde effleure tes rêves, là où le bonheur n'est plus un mystère. C'est là que je t'emmènerai sur la route, et si le soleil le savait, mais j'en doute, il viendrait. Là où je t'emmènerai, aucun doute, il s'inviterait pour nous éclairer. Longerons la mer, nos vies couleront sans un hiver, comme un matin d'été, un courant d'air. Et tout au long de ta vie, que s'écartent les nuages, je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi. Regarde là-bas, c'est là que je t'emmènerai sur la route et le soleil.
Là où je t'emmènerai, c'était Florent Pagny.